Erosmoul, érotisme, coquinerie, sexualité sur Osmose Radio.
Bonjour à tous, chers petits fripons, soyez les bienvenus sur Osmose Radio, en ce vendredi 15 février, lendemain de Saint-Valentin, dont il va être un petit peu question aujourd'hui. Eh bien, soyez les bienvenus dans Erosmose. On va vous parler de la Saint-Valentin, entre autres choses, aujourd'hui dans votre émission consacrée à l'érotisme et à la sexualité. Qui ça on? Ben moi-même, Stéphane, ainsi que la voix la plus sexy de la radio française.
C'est moi.
Laurence, bonjour.
Bonjour, petite friponne.
Et voilà, moi je dis bonjour aux fripons, elle dit bonjour aux friponnes parce qu'on respecte la parité dans
Exactement.
Cette émission. Voilà, je vous disais, on va parler un petit peu de la Saint-Valentin, entre autres choses, on ne veut pas vous tanner avec ça non plus, rassurez-vous, mais on restera dans nos thèmes habituels. Mais on va commencer avec une chanson qui évoque un petit peu ça pour nous mettre en jambes avec quelques notes de musique. Tout de suite, Wanda Jackson avec le titre Stupid Cupid.
Stupid Cupid, you're a real mean guy. I like to clip your wings so you can't fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't see straight. I meet him every morning about a half past eight. I'm acting like a lovesick fool. You even got me carrying his books to school. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You mix me up with good right from the very start. Hey, go play Robin Hood with somebody else's heart. You got me jumping like a crazy clown. And I don't feature what you're putting down. Since I kissed these loving lips of wine, the thing that bothers me is that I like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me.
Wanda Jackson avec le titre Stupid Cupid, enfoiré de petit Cupidon qui vient nous rabâcher les mêmes insanités chaque année à la mi-février au cœur de l'hiver avec son petit cucu, ses petites flèches, son petit arc et tout le délire qu'il y a autour, tout ce carnaval commercial qu'on condamne souvent mais auquel on cède aussi parfois.
C'est quoi le proverbe à la mi-février, chevauche ton destrier, c'est ça?
Oh, c'est intéressant ça. T'en as beaucoup des citations comme ça.
Ça va venir.
Elles vont
ça chauffe.
On te fait confiance pour en ponctuer l'émission. Comme à ton habitude. Mais bon, le 14 février, c'est cette célébration occidentale qui s'est un petit peu imposée dans le monde entier, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, avec de bons ou de mauvais effets, peu importe. Et on va en parler évidemment aujourd'hui, on ne pouvait pas passer à côté. Aujourd'hui, vendredi 15 février, alors que la Saint-Valentin avait lieu hier, forcément dans Erosmose, on allait vous parler un petit peu de tout ça. Néanmoins, avant toute chose, je tenais à revenir sur un événement qui a eu lieu la semaine dernière, qui lui aussi a fait un petit peu, enfin en tout cas progresse dans nos sociétés occidentales, alors qu'il n'est pas du tout endémique, originaire de chez nous, c'est le Nouvel An chinois, qui en même temps était assez drôle cette année, puisqu'on quittait l'année du chien 2018 pour entrer dans l'année du cochon.
Cochon, et je suis cochon dans l'horoscope chinois, et je rappelle que dans le cochon, tout est bon.
Ouh, mais ça, on veut bien te croire. Et ouais, donc moi, ça me fait marrer de savoir qu'on quitte l'année des chiennes pour entrer dans l'année des cochons. Pour entrer dans l'année des cochons, décidément. Voilà, cette transition s'annonce assez olé olé. Et d'autant plus en lendemain de Saint-Valentin. Et donc, mardi, la semaine dernière, 5 février, c'était le nouvel an chinois. Et par conséquent, bah, pour rebondir un petit peu sur ce thème-là, j'avais envie de vous parler un petit peu de quelques anecdotes insolites sur la sexualité en Chine. Alors, je ne vais pas évidemment vous faire quelque chose d'exhaustif, mais je vais vous donner en vrac quelques anecdotes, quelques éléments assez insolites et parfois même surprenants à propos de la Chine. Mais je vais quand même organiser ça en fonction du chronologique, en quelque sorte, puisque la Chine a eu au moins 3 périodes dans son histoire, en tout cas 3 périodes qui nous intéressent, nous. C'est la période ancienne de la Chine impériale, ensuite la période révolutionnaire, notamment avec les réformes de Mao Tse-tung, et enfin la Chine contemporaine telle qu'on la connaît depuis les années 80, depuis des événements importants comme les réformes de Deng Xiaoping, Tiananmen, la rétrocession de Hong Kong, etc., etc. Autant de choses, des événements politiques qui a priori n'ont pas lieu d'avoir une influence sur la sexualité directement, mais comme elles influencent beaucoup la société, et bien de fait elles influencent aussi la sexualité, en l'occurrence des Chinois. Et donc on va parler un petit peu aujourd'hui avec un fait historique, un fait culturel qui était assez horrible, mais qui a existé jusqu'à une époque, même jusqu'au début du XXe siècle, avant la période révolutionnaire et la République de Sun Yat-sen, c'était les femmes aux pieds bandés. Pourquoi est-ce qu'on bandait les pieds des femmes? En fait, c'était une déformation. Vous connaissez les femmes girafes en Birmanie?
Avec les coups, on leur met des colliers à chaque étape, de façon à ce que le cou s'allonge et après on n'enlève plus les colliers parce qu'elles ne tiennent pas debout, hein.
Ouais,
on
ne
peut
exactement.
Plus enlever les colliers. Le cou est tellement allongé qu'elles sont totalement déformées.
Tout à fait. C'est aussi des modifications corporelles, puisqu'il s'agit d'art corporel en quelque sorte, mais qui vont extrêmement loin dans la mesure où ça déforme l'ossature même du sujet. Et les femmes girafes sont un exemple intéressant, en plus pas très loin de la Chine, puisque c'est en Birmanie. Et tu as raison. Du coup, on ne leur enlève jamais leur collier, parce que si on leur enlevait d'un coup, la nuque casserait, tout simplement. Et les femmes aux pieds bandés dans la Chine impériale étaient un exemple de misogynie d'État, en quelque sorte, assez sale, assez dégueulasse, qui consistait en fait à bander les pieds des petites filles et à laisser l'ossature du pied, qui est quand même une partie de notre corps extrêmement complexe, parce que ce sont des os, des cartilages, etc., ça s'articule difficilement. Et de fait, la croissance de la petite fille avait lieu pendant des années avec des bandelettes qui lui contraignaient les pieds, de sorte qu'elle avait les petons totalement arqués une fois arrivée à l'âge adulte. Pourquoi ? Pour l'empêcher de s'enfuir du foyer, tout simplement.
Mais je crois que ça les empêchait de marcher aussi. Ils ne pouvaient pas marcher, ils avaient des chaussures tellement...
Elles se dandinaient, ouais.
Et à ce propos, je fais juste une petite parenthèse. Si vous avez l'occasion de passer à Romont, la ville de la chaussure, il y a un musée de la chaussure qui est tout à fait passionnant. Vous allez y trouver des chefs-d'œuvre des maîtres cordonniers, dont une botte dont je me souviens, qui est faite d'un seul morceau de peau. On ne sait pas où est la couture. Avec un talon qui est courbé, avec lequel on ne peut pas marcher. Hein. C'est une botte de fétichiste, qui est magnifique. Et il y a également un moulage de pieds de petites chinoises, de pieds bandés. Donc on aura, si vous passez par là, vous allez avoir vraiment l'idée de ce que ça représentait comme torture.
Tout à fait. Et on peut que se l'imaginer, mais moi, ça me fait froid dans le dos quand même. Ce genre de choses, quand bien même, ça répond à des mœurs et des culturels, etc. Avec notre point de vue moderne, c'est quand même assez dégueu. Mais ils se sont bien rattrapés par la suite. Un autre exemple aussi, c'est cette façon qu'ont eu les Occidentaux à partir des guerres de l'opium, principalement les Français et les Britanniques, de considérer les femmes chinoises comme particulièrement sensuelles. Sensuelle et sensuelle, avenante et avec un art consommé de l'érotisme et des prouesses sexuelles, comme ça a été un petit peu le cas en Inde. Mais en fait, il faut aussi savoir, et c'est quand même des préjugés qui se retrouvent encore aujourd'hui, puisqu'on les retrouve régulièrement dans les blagues, dans la publicité, par exemple, ou bien dans les pitreries de Yann Moise dont on parlait le mois dernier, il dit que lui, il flash sur les petites asiatiques, parce qu'elles sont censées être soumises, etc. Et c'est vrai que même en Asie, le statut des femmes, s'il a quand même évolué, il y a quelques Chinoises ou quelques Thaïlandaises avec lesquelles j'ai eu l'occasion de discuter, qui m'ont dit effectivement, quand t'as du tempérament, quand t'aimes le rock, quand t'as envie de sortir avec les copines, c'est parfois compliqué parce que bah, t'es censé être une petite femme soumise qui baisse les yeux, etc. Alors que quand tu regardes un gars dans les yeux, c'est assez mal vu, quoi. Voilà. Et donc, le choc culturel qu'il y a eu pendant les périodes des guerres coloniales, je pense notamment à la guerre de l'opium en Chine, quand les Français et les Anglais ont contraint l'impératrice chinoise à ouvrir ses ports au commerce, eh bien en fait, il y a eu ce choc culturel qui a fait que c'était deux mondes qui ne se connaissaient pas du tout, ou alors très peu, parce que la connaissance de la Chine est très ancienne, on la connaissait déjà sous l'Empire romain. En plus, c'était des objets de luxe qui nous venaient de là-bas, les soieries, tout ça.
Sûr.
Mais du coup, on a associé cette idée, en plus après avec le Livre des Merveilles de Marco Polo, tout ça, on a associé cette idée de richesse, d'opulence, et donc bah, aussi parfois d'érotisme qui colle un petit peu, de délicatesse, et à ce qui ne correspond pas forcément à la réalité du pays. Et quand des Britanniques, par exemple, qui vivaient dans une société extrêmement corsetée, qui n'avaient jamais vu le coude ou le cou, la peau du cou de leur mère, et qui voyaient en Inde ou en Chine des femmes qui avaient les bras nus, alors eux, pour eux, il y a eu un choc de sensualité extrêmement fort, et ça a donné lieu à des préjugés qui ont la vie dure, puisqu'on les retrouve encore parfois aujourd'hui. Donc voilà, il y a eu ce choc culturel qui a fait créer beaucoup, beaucoup de préjugés sur la Chine, au moins la Chine impériale. Et tout ça a quand même évolué au XXe siècle, parce que ça a été vraiment une époque de grand bouleversement pour la société chinoise. Et donc, ben, à partir du moment où il y a eu Sun Yat-sen qui a fait la République chinoise, dont il est question dans le film Le Dernier Empereur de Bertolucci, et ensuite Mao après la guerre civile en 1949, il y a eu beaucoup, beaucoup de réformes, ben déjà, ne serait-ce que pour interdire qu'on bande les pieds des petites filles, tout simplement. Déjà, ça, en soi, ça paraît rien, mais c'est un progrès énorme. Et ensuite, quel est le rapport avec l'érotisme et la sexualité, vous me direz, ben, c'est que le statut des femmes ayant évolué, ben, leur pratique aussi, bien entendu. Un truc tout bête aussi, c'était imposer la monogamie. C'est Mao qui a imposé ça à partir de 1949, enfin, dans les années 50. Parce qu'avant, il y avait cette fameuse expression ben, qui avait donné lieu à un roman d'ailleurs, épouse et concubine. La polygamie était quelque chose d'assez fréquent dans certaines classes de la société chinoise traditionnelle. Et on avait des épouses en plus des concubines. Alors, c'était que pour les mandarins ou l'empereur lui-même. Mais en attendant, c'était quelque chose auquel les hommes aspiraient parce que c'était un signe de statut social. Ça, d'ailleurs, c'est une mentalité qu'on retrouve encore un peu aujourd'hui. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, voilà, toute cette... comment dirais-je, le fait d'avoir plusieurs femmes était un signe d'opulence, et Mao a imposé cette idée de monogamie. Et donc la femme est devenue l'égale de l'homme. D'abord, il avait une expression pour ça, il disait « les femmes portent la moitié du ciel ». C'était une image poétique dont sont friands les Chinois, mais qui n'était pas innocente, parce que dans sa mentalité, ça signifiait aussi que la femme constituait la moitié de la population active, et que si elle désertait, comme dans Lysistrata, hein, le fameux conte grec, si elle désertait un jour les usines ou les champs, ben, la Chine était bien emmerdée, quoi. Donc c'était aussi pour ça qu'il les caressait entre guillemets un peu dans le sens du poil, passez-moi l'expression, parce qu'il avait besoin de femmes motivées, et des femmes qui d'ailleurs avaient été extrêmement courageuses pendant la révolution, pendant la guerre civile, la lutte contre les Japonais, et ensuite la révolution. On a trouvé des grandes révolutionnaires, même si l'histoire n'a pas gardé trop trace. En même temps, c'était un peu gonflé de la part de Mao de faire un petit peu l'apologie de l'art révolutionnaire, parce que lui-même était un consommateur de films de filles assez jeunes. Ça a été attesté seulement sur la fin, dans les années 70. Mais en fait, il les aimait bien potelés et assez jeunes. Mais en même temps, on l'a accusé de pédophilie. Alors ça se discute. Je ne veux pas jouer sur la polémique, mais le fait est que 14 ans, bah, c'était l'âge de la majorité sexuelle en Chine. Et Mao aimait bien les filles de 14 ans. Voilà. Donc, est-ce que dans ces conditions, on peut le traiter de pédophile? Moi, je pense que oui. Mais dans le cadre de la société chinoise de l'époque, ce n'est pas si évident. Voilà. Et donc Mao a imposé des tas de réformes, notamment la monogamie qui évidemment a beaucoup changé la sexualité des Chinois notamment, et aussi le fait d'interdire purement et simplement la prostitution et la pornographie a aussi changé beaucoup de choses. Et tout ça est allé par étapes dans les années 50. Et dans les années 60, il y a eu quelque chose qui a été très important en Chine, c'est la révolution culturelle. Où là, la pudibonderie de la société communiste chinoise a atteint un sommet. Quoi. C'est très difficile à comprendre pour nous autres. Parce que nous, à l'époque fin des années 60, où on vivait la révolution sexuelle, où on a eu la pilule qui permettait de baiser librement sans capote, on a eu le statut des femmes qui a évolué, elles avaient le droit d'avoir un compte en banque, elles étaient indépendantes et donc elles étaient d'autant plus libres. Et ça joue beaucoup sur les relations hommes-femmes. L'avortement ensuite dans les années 70, etc. Eh bien, en Chine, c'était une révolution culturelle qui prenait les gens des villes, les citadins, pour les emmener bosser à la campagne, pour les obliger à abandonner les valeurs bourgeoises. Et qu'est-ce qu'on retrouvait dans les valeurs bourgeoises, évidemment ? Eh bien, l'érotisme même, tout simplement. Il faut savoir que les bouquins de Flaubert, Madame Bovary, étaient considérés comme des œuvres pornographiques
en
Chine.
Ah ben, fureux, mais on a toujours dit que Flaubert était... Hein ?
Ou Honoré de Balzac, même.
Oh, Balzac, encore pire.
Et voilà, donc il y a eu un film il y a une quinzaine d'années qui était assez marrant d'ailleurs sur ça, parce qu'il y avait des gamins des jeunes étudiants qui avaient été envoyés en rééducation dans les campagnes à la fin des années 60 et qui lisaient en douce des bouquins d'Honoré de Balzac où donc t'avais des qui étaient considérés comme des œuvres subversives parce qu'érotiques.
Bah, ce sont des auteurs subversifs, c'est vrai.
Voilà, et du coup, ben évidemment, donc tout ça a un petit peu changé par la suite.
Et quid de l'enfant unique ?
Justement, voilà, parce que ça a évolué un petit peu récemment, mais l'enfant unique, le problème de la surpopulation en Chine et la politique de l'enfant unique, avec son corollaire d'avortement forcé et de grossesses interrompues et même de stérilisation dans certaines parties de la Chine d'ailleurs, tout ça effectivement a beaucoup joué, parce que dans un pays où la contraception était assez chère, elle n'était pas interdite, attention.
Oui, oui.
Comme je le disais pour la Russie le mois dernier, c'était quand même un progrès du communisme d'apporter des moyens de contraception aux citoyens, mais le fait est que c'était assez cher et dans beaucoup de campagnes, parce que c'était quand même la majorité de la population qui vivait à la campagne, eh bien c'était très difficile d'accès. Il y avait aussi des pesanteurs sociales qui influençaient tout ça. Et du coup, on baisait, pardonnez-moi, c'est mon expression, les femmes baisaient dans la terreur de tomber enceinte et d'avoir des ennuis à cause de ça. C'est pas l'apanage de la Chine, ce genre de misère sexuelle. La Roumanie a connu la même chose à une époque aussi.
On est bien d'accord. On a appris aussi que quelquefois les bébés qui naissaient de sexe féminin étaient mis à mort immédiatement.
Alors ça,
en Chine et ailleurs. Hein.
En Inde, ouais, carrément. Mais en Chine, t'as raison, c'est arrivé aussi. Et du coup, ouais, parce que c'est le garçon qui primait. Et au niveau des mœurs sociales, au niveau des mentalités, mais aussi pour des raisons économiques. C'est moins violent qu'en Inde, mais quand même. C'est peut-être moins violent parce qu'on en parle moins, je sais pas. Mais en tout cas, ça existe, tu as tout à fait raison. Et du coup, ouais, tout ça évolue un petit peu jusqu'à une période récente et aujourd'hui on parle de révolution sexuelle en Chine. Il y a des sociologues qui aiment à parler de révolution sexuelle en Chine. C'est quand même à relativiser. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait la Chine s'est ouverte entre guillemets aux valeurs occidentales pour des raisons d'expansion économique. Par exemple, la Saint-Valentin est fêtée en Chine en ce moment, mais ça reste une coutume un peu exogène, quoi. Ça reste une tradition occidentale. Et du coup, il y a des sociologues qui parlent de révolution sexuelle en Chine à partir des années 2000. En fait, c'est à relativiser. Parce que, je parlais tout à l'heure des statuts sociaux liés au fait d'avoir de nombreuses femmes dans la Chine impériale ancienne. Et bien, en fait, c'est une mentalité qui perdure aujourd'hui, parce que des hommes qui arrivent à avoir des statuts importants dans leur entreprise, dans le parti, par exemple, sont amenés à être aussi performants qu'ils le sont dans l'entreprise, dans le monde économique ou dans le monde politique. Il faut qu'il y ait un corollaire, que ce soit aussi performant sexuellement. Et du coup, le fait de s'afficher avec différentes femmes, c'est aussi une question de prestige, tout simplement. Et ce qu'on appelle un petit peu pompeusement, ce que certains sociologues appellent un petit peu pompeusement révolution sexuelle, tient aussi beaucoup au fait qu'il y a des hommes qui réussissent très bien et qui ont besoin du coup de s'afficher avec des call girls ou de s'afficher avec une fille différente tous les mois. Voilà. Et ça, par exemple, quid de la, du plaisir de la femme, de ses satisfactions, ses envies à elle, ça, on n'en parle pas trop, par exemple. Donc, il y a encore des, questions, il y a des études sociologiques aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 40 ans. Puisque la sociologie était considérée comme une science bourgeoise et donc proscrite dans les universités. Néanmoins, les mœurs sont un peu mieux étudiées et s'ils n'évoluent pas forcément beaucoup, hein, je pense notamment au cas des homosexuels qui ont toujours tendance à se cacher parce qu'ils sont extrêmement mal vus, c'est une honte pour la famille, etc. Eh bien, la situation évolue très difficilement, mais elle évolue en tout cas. L'étude qu'on en fait, elle évolue. Voilà. Après, il y a des anecdotes un peu plus croquignolesques qui sont parfois même un petit peu méprisantes et qui se révèlent fausses. Je pense à une affaire qui avait défrayé la chronique, par exemple, il y a 2 ans, sur un couple qui essayait depuis 4 ans, un groupe de Shanghai, hein, donc pas un couple des pecnos de la campagne, qui essayait d'avoir un enfant depuis 4 ans et qui n'y arrivait pas. Et le jour où ils sont allés voir la gynécologue, elle a compris qu'en fait, ils ne s'y prenaient pas par le bon trou, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà.
Effectivement, c'est toujours un peu difficile de ce côté-là.
Alors là, évidemment, tout le monde s'est déchaîné sur les internets en disant que oui, bah, décidément, la société est tellement puritaine en Chine que du coup, on ne parle pas ni à l'école, ni dans la famille, on ne parle pas de sexualité, etc. Enfin, tout le monde y allait de son petit, et moi aussi d'ailleurs, je reconnais que j'avais été tellement surpris que je m'étais dit, mais c'est pas possible qu'il soit aussi coincé du cul, quoi. Et enfin, même si en l'occurrence...
Une expression, hein.
Le cul était justement
le bon vecteur,
l'orifice quoi. Sollicité dans leur histoire. En fait, cette histoire était un noax, un fox. Et en fait, voilà, c'était une mauvaise blague d'un internaute, et manifestement, la mayonnaise avait pris. Et ça a pris quand même quelques mois avant que tout ça soit démenti. Voilà. Par contre, une histoire qui, elle, n'est pas une intox et qui rejoint un petit peu ce que je disais à propos des statuts sociaux, c'est aussi une coutume assez curieuse, assez insolite en Chine. C'est au moment des enterrements. C'est bien vu depuis longtemps de faire venir des stripteaseuses aux enterrements.
Mais je trouve ça sympa comme tout.
Alors moi, je
beaucoup
trouve ça...
plus gay.
Ben exactement. Moi, je me trouve ça assez marrant. Ça fait penser à la chanson de Jacques Brel. Hein. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse.
Tout à fait.
Je veux qu'on s'embrasse comme des fous. Quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Eh bien, il semble qu'en Chine, ils aient bien assimilé ce principe-là. Mais alors, pour des raisons totalement différentes de celles qu'imaginait Jacques Brel. En l'occurrence, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une question de statut social. La famille qui organise les obsèques a un rang à tenir, en quelque sorte, dans sa ville, ou même une petite... Enfin, moi, la première fois que j'ai entendu parler de cette histoire, c'était pour un homme riche, un homme d'affaires de Taïwan. Donc, je m'étais dit, bon, bah, c'est peut-être plutôt à Hong Kong, à Taïwan, dans des endroits très industrialisés, etc., que ça se trouve. En fait, non, pas du tout. Au fin fond de la Pampa, dans la Chine continentale, on trouve aussi ce genre de coutume, et qui date pas d'hier. Et le gouvernement chinois, donc de la Chine populaire, j'entends, à Pékin, entend faire obstacle à ce genre de pratique, mais il a beaucoup de mal parce que c'est les stripteaseuses aux enterrements, qui s'entraînent, à mon avis, sans doute beaucoup, pour faire de jolies performances aux enterrements. Eh bien, ces femmes-là sont les bienvenues dans les enterrements et même dans les petits villages au fin fond de la campagne, pour une raison très simple, c'est que, donc, je disais, il y a cette histoire de rang à tenir dans la communauté, mais aussi les enterrements sont vus pour des raisons culturelles comme des moments où on doit s'amuser. Que moi je considère comme une bonne chose, c'est plutôt bien trouvé. Mais aussi, il est de coutume, il est de rigueur que tous les gens qui viennent à l'enterrement donnent un peu de monnaie à la famille du défunt. Et là...
Ça rentabilise.
Exactement. Les Chinois sont un peuple de commerçants. Et à mon avis, ils ont le sens du business. Donc, quand ils font venir des stripteaseuses, eh ben, ça ramène des gens des villages d'à côté, etc. Il y a un monde fou. Et résultat, si tout le monde y va de sa petite obole, non seulement tu rentabilises la location des stripteaseuses, oui, mais en plus, tu fais du bénéfice.
C'est ça. Tout ça pour un spectacle presque gratuit. Plutôt sympa.
Mais c'est horrible ce que je dis, mais je vous assure que c'est vrai.
Non, mais on rit beaucoup aussi hein, sur Erosmos, pas croire.
Voilà, et voilà. Donc je vais continuer à... Donc tout ça, toutes ces anecdotes que je viens de dire concernaient uniquement la Chine, la culture chinoise, et donc les pays de population chinoise alentour, hein, Taïwan et Hong Kong, mais on peut aller un petit peu plus loin en Asie, parce que la Chine est pour l'Asie ce que Rome a été pour l'Occident, c'est-à-dire qu'elle a donné vraiment les bases de la culture, et du coup, le Nouvel An chinois, il est fêté aussi dans nombre de pays alentours. Et là, je reviens sur une anecdote que tu avais citée le mois dernier, Laurence, c'est qu'il y a des pays où on ne fête pas, par exemple, l'année du lapin, mais l'année du chat. Mmh. Ces pays, c'est notamment le Vietnam et le Japon. Pourquoi ? Eh bien, parce que le lapin, c'est un animal qui a une connotation un peu sexuelle, y compris en Chine, parce que là-bas aussi, le lapin, c'est une bestiole qui baisse comme un lapin, en l'occurrence, et qui se reproduit à vitesse grand V.
Moi, je voyais ça en deux mots, le lapin et la femelle, lapine.
Voilà.
Bienvenue sur Osmose.
Ah ben, c'est une transition pour le sujet que j'aborderai tout à l'heure, parce qu'il y a des... On va conclure sur les phallus tout à l'heure, tu vas voir. Ce sera rigolo. Mais pour le moment, pourquoi est-ce que les Chinois fêtent l'année du lapin alors qu'à côté, au Vietnam, eh bien, ils fêtent l'année du chat. Et au Japon, pareil, l'année du chat, par exemple.
Mais c'est pas lié à une espèce de vieille querelle Japon-Chine, non ?
Une vieille querelle...
Oui, la guerre. Non. Je parle des effets de la guerre.
Ouais.
Cherche une explication.
À mon avis, c'est peut-être un effet qui renforce encore cette différence-là, mais elle n'en est pas à l'origine. Clairement pas, parce que si tu vas par là, les Vietnamiens ont de très sérieuses raisons de détester les Chinois aussi.
Aussi, tout à fait.
En fait, il se trouve que les Vietnamiens, ethniquement, et les Japonais, pareil, ethniquement et culturellement, ils sont des dépositaires de la culture chinoise, parce que c'est leur racine, c'est clair. Mais en même temps, ils sont très différents au niveau ethnique. Et il y a pas mal de nuances culturelles aussi. Et en plus, c'est un peuple, les Vietnamiens et les Japonais, chacun à leur manière, ils sont beaucoup plus pudiques que les Chinois, qui sont très expansifs, beaucoup plus expansifs. Si tu te promènes dans un métro bondé à Shanghai ou à Tokyo, tu sens tout de suite la différence. Le comportement des gens est pas pareil, quoi.
Mais déjà, à Tokyo, tu mets un masque.
Oui, en plus. Savoir. Mais même nous, quand on croise des touristes chinois ou japonais, on a peut-être du mal à faire la différence au niveau de leur physionomie, mais au niveau de leur façon d'être, on fait la différence parfois tout de suite. Bref, et du coup, ouais, les Vietnamiens, les Japonais sont un petit peu plus pudiques que les Chinois, et on ne voit pas forcément d'un très bon œil le symbolisme du lapin dans leur horoscope et leur calendrier. Du coup, ils ont préféré adopter le symbolisme du chat, qui est lui aussi un animal qui a une certaine sensualité, mais qui dans l'étreinte est quand même beaucoup plus bref, on va dire. Voilà.
Et
voilà, donc voilà des petites anecdotes comme ça. J'en avais d'autres et une laquelle on va conclure. Tout à l'heure je parlais de la pudibonderie du parti communiste chinois, et ça me rappelle une anecdote dans un film qui s'appelle Les Chinois à Paris, un film de Jean Yann qui est sorti en 1973. T'as Jean Yann, l'histoire en fait c'est que les Chinois envahissent la France, voilà, et Jean Yann qui tient un sex shop, il se dit ouais, les soldats chinois ils vont m'acheter des tas de trucs, etc. En fait, tu parles, ils ont des consignes de rien acheter qui soit des trucs de décadents, de capitalistes, tu vois. Donc du coup, plus de clients dans sa boutique, et du coup, il se reconvertit, il enlève sexe du début de la devanture dans son magasin, et derrière il ajoute Suez, donc de sex shop il devient shop Suez, il ouvre un restaurant comme ça, voilà, c'est Jean-Yann, il avait cette façon de voir les choses.
Jean-Yann inimitable. Alors juste, je vais pas te couper la parole, mais tu parlais de la Chine, donc moi je suis allée chercher 2-3 petites infos aussi. J'ai appris qu'il y avait un festival, je sais pas parler chinois donc je suis pas certaine de ma prononciation, le festival ça s'écrit Kixi, ça se prononce certainement pas Kixi en Chine, tu connais
le
c'est l'équivalent de la Saint-Valentin,
oui.
C'est le festival Kichi.
Kichi.
Oui, voilà, qui est célébré habituellement début août, le septième jour du septième mois lunaire. Et on dit que cette tradition se fonde sur une histoire ancestrale qui a été transmise de génération en génération, l'amour tragique de deux amants, une fée nommée Zinou et un jeune agriculteur nommé Nialong, transformés en étoiles et séparés par la voie lactée. Depuis, les amoureux ne peuvent se voir qu'une seule nuit par an, lors du festival Kichi. Et la tradition veut que les célibataires offrent des fruits à la fée devenue la déesse de l'amour, Zinou, pour qu'elle puisse trouver l'amour. Les couples, quant à eux, font des offrandes pour préserver le leur. Voilà.
Bien joué, effectivement, il y a cette idée d'une Saint-Valentin chinoise, en quelque sorte, qui est assez ancienne, puisqu'elle date de la période médiévale. Mais ben justement, pour parler de période médiévale, et justement, je voulais conclure ce petit tour d'horizon très bref et très succinct, je le reconnais, sur la sexualité et l'érotisme en Asie, en règle générale, et en Chine en particulier. Eh bien, je voulais vous parler d'une province qui a longtemps été indépendante, mais qui aujourd'hui est une province chinoise, c'est le Tibet. Et le Tibet, qui est une région importante du bouddhisme, évidemment, avec le Dalai Lama notamment, et qui, si les moines, eux, ne sont pas tenus d'avoir, façon tenue de ne pas avoir des relations sexuelles ou très peu, c'est pas forcément le cas de tous. Et je vais vous parler d'un personnage assez truculent que j'ai découvert il y a quelques années, un moine du 15e siècle qui, dans sa verve, dans les écrits qu'il nous a laissés, se rapproche de Rabelais,
J'étais sûre que tu allais dire ça. Déjà, tu disais moine et moi, je voyais un petit coup de Rabelais pas loin.
Eh ben, dis donc. Alors, je ne sais pas si Rabelais lui-même était ecclésiastique, je ne crois pas. Mais en tout cas, Drukpa Khunle, pour parler de cet homme-là, était un moine défroqué du 15e siècle au Tibet. Et en fait, au Tibet et encore plus au Bhoutan, qui est un petit pays coincé entre l'Inde et la Chine, et l'Asie du Sud-Est, un tout petit pays montagneux, Drukpa Khunle est considéré comme un genre de demi-dieu. Et en fait, cet homme-là, c'était un moine qui n'avait pas intégré un monastère, qui se baladait un peu en loque, un petit peu comme Diogène sous la Grèce antique, bien que quand même ce soit des gars assez différents. Diogène, c'était un cynique, alors que Drukpa Khunle, c'était un paillard, on va dire. Hein. Il aimait bien la bonne chair et la bonne chair, dans les deux sens du terme. Et Drukpa Khunle, donc, est connu pour ces frasques sexuelles qui sont quasi mythiques. En fait, il y a des contes qu'on raconte dans les veillées là-bas, ça fait rire tout le monde, il est considéré comme un genre de demi-dieu en fait. Et en même temps, des fois, c'est pour des histoires, mais vraiment de l'humour bas du front, des blagues de cul toutes pourries, mais en même temps, c'est con, ça fait rire quoi. Je vais vous donner un exemple, il aimait beaucoup, on lui attribue 5000 maîtresses dans sa vie. Voilà, 5000 amantes.
Présomptueux.
Voilà, un petit peu présomptueux le mec, hein, mais bon. Et il appelait son sexe, il appelait le tonnerre de la sagesse enflammée. Alors en même temps, ça nous fait rire, bah oui. Évidemment, de le mec qui appelle sa bite
derrière, hein.
Le tonnerre de la sagesse enflammée, alors que nous, on l'appelle Popol, tout simplement. Enfin bref, mais il faut se replacer dans le contexte culturel de l'époque, évidemment, parce que c'était une région où se diffusait, était largement diffusé le bouddhisme, mais empreint de tout son héritage hindou notamment, et le tantrisme notamment. Et le tantrisme, c'est pas que des pratiques sexuelles, c'est aussi une manière d'atteindre l'illumination, d'atteindre la félicité. Il y a une quête spirituelle là-dedans, par le sexe. Donc le sexe est un vecteur mystique, en quelque sorte. Et le bouddhisme tibétain, normalement, à cette époque-là notamment, était imprégné de tout ça. Et donc, il faut replacer la littérature que nous a laissé Drukpa Khunle et toutes ces anecdotes truculentes, je le répète, dans ce contexte-là, notamment. Et donc je vais vous donner un exemple. Un jour, je vous ferai une chronique plus longue sur cet homme-là parce qu'il le mérite. Là, je vais juste vous donner quelques éléments pour conclure. Une blague vraiment bas du front qu'il avait fait, une anecdote qu'il aimait bien faire. Il aimait bien mettre ses contemporains face à leurs contradictions. Et un jour, il rencontre des moines et il dit « Tiens, je vais me foutre de leur gueule ». Au temple de Ramoche, il trouva des moines engagés dans une discussion métaphysique. Jugeant qu'il ne fallait pas laisser passer cette occasion de leur apprendre à rire, il demanda « Que faites-vous, ô moines ?»« Nous purifions notre esprit des doutes et de ce qui en perturbe l'harmonie. »« Ah, je connais moi-même un peu la métaphysique », répliqua-t-il. Ayant dit, il les gratifia d'un énorme P en plein dans les narines. Et là, il leur répond « Alors, qu'est-ce qui est premier, l'air ou l'odeur ?» Les moines se mirent en colère et voulurent le chasser. « Nous n'apprécions pas ton humour. » Et ils l'injurièrent. Voilà. Et il y a des tas d'histoires comme ça. Alors ça, évidemment, c'est vraiment...
Dommage, c'est terriblement actuel quand même. Hein,
ça fait blague de Jean-Marie Bigard. Oui. Mais en même temps, voilà, c'est des histoires comme ça qui sont très, très populaires. Et en même temps, je vais conclure avec ça. Il a aussi laissé quelques poèmes qui sont dans le style des mantras bouddhistes qu'on se répète pour se vider la tête, par exemple. Des choses comme ça. Donc, si je le retrouve, je vais vous dire ça, voilà. Un extrait d'un de ses poèmes. « La jeune vierge trouve plaisir au désir naissant, le jeune tigre à la consommation de l'acte. Le vieillard dans sa mémoire fertile, tel est l'enseignement des trois plaisirs. »
Le lit est l'atelier du sexe. Il doit être large et confortable. Le genou est le messager du sexe et doit être envoyé en avant-garde. Le bras est l'étau du sexe. Il doit étreindre fermement. Le vagin est avide de sexe. On doit le satisfaire sans jamais débander. Tel est l'enseignement de la nécessité. On reconnaît un riche à son poing étroitement serré. On reconnaît un vieillard à son esprit étroitement resserré. On reconnaît une nonne à son vagin qui serre étroitement. Tel est l'enseignement des trois contradictions. Des trois contractions, pardon. Mais il y a un petit peu de contradiction.
Aussi.
Le beau parleur s'immisce au milieu de la foule. La richesse du monastère va dans l'estomac des moines. Le gros pénis pénètre le vagin des jeunes filles. Tel est l'enseignement des trois immixtions. Cunlé ne se lasse jamais des filles. Les moines ne se lassent jamais de la richesse. Les filles ne se lassent jamais du sexe. Tel est l'enseignement des trois infatigables. Bien que les bourses puissent pendre très bas, elles ne sont pas un sac adapté pour porter les provisions d'un ermitage. Bien que le pénis ait un manche fort et une tête large, ce n'est pas un bon marteau pour enfoncer un clou. Voilà.
Oh, moi, je trouve ça truculent. Est-ce que c'est consigné dans un livre, dans des écrits? Je trouve ça formidable.
Oui. Là-bas, le bouddhisme n'est pas une religion du livre à proprement parler, mais elle laisse beaucoup d'écrits, bien entendu.
Oui, mais je veux dire, ça se trouve en France.
Moi, je mettrai des sur Internet, sur le Facebook d'Erosmos, je mettrai quelques ressources.
Excellent.
Et je le répète, je vous en reparlerai de cet homme-là un jour parce qu'il en vaut largement la peine. Voilà Drukpa Khunle, donc un moine bouddhiste de l'époque, et qui justement a fait l'objet d'un. Un peu comme Sakyamuni, le fondateur du bouddhisme, qui était un homme qui disait non, mais les gars, laissez tomber, Dieu ça n'existe pas, et qui finalement lui-même a été considéré comme un dieu. Et bien Drukpa Khunle, quelque part, c'est un peu pareil au Bhoutan, c'est-à-dire qu'on le considère comme au moins un demi-dieu, et ses contes, enfin ses anecdotes, ces histoires sont quasi mythiques là-bas. Et en fait, il est d'usage au Bhoutan de faire appel à des artistes pour peindre, et revenir à ce que tu disais tout à l'heure, peindre des phallus sur les portes des maisons. Et en fait, là-bas, c'est un porte-bonheur, voilà, tout simplement. Pour que le bonheur et la prospérité soient sur la maison, eh bien, on fait appel à un artiste qui va dessiner le zizi de Drukpa Khunle sur la porte de la maison.
Le
pour
plus
que
gros
la famille...
possible, non?
Ah ben, et des fois, ils sont énormes. Ils sont très beaux, en plus, c'est des œuvres d'art. Hein.
Oui, je pense aussi aux statues où tu vas en Égypte, où tu as un mur représentant, je ne sais plus quel pharaon, Toutankhamon ou Ramsès, et tu mets ta tête, il a un sexe qui est représenté, soi-disant, selon ce qui était réel, ça fait peur hein, quand même.
Tout à fait. Oui. Voilà, bon, on va passer à quelqu'un qui était lui aussi, qui est lui aussi assez truculent, bien qu'il soit plus contemporain et qu'il soit plus occidental, c'est Paul Stanley du groupe Kiss, qui lui aussi a sous ses 2 tonnes de maquillage et son poil sur le torse, aime bien parler de sexe et d'amour, notamment dans le morceau qu'on va écouter tout de suite, I Was Made for Loving You, Baby.
C'est pour toi.
I wanna see it.
I was made for loving you, baby, chantait à l'instant Paul Stanley dans ce morceau du groupe Kiss, qui datait de la fin des années 70. Soyez bienvenus sur Osmose Radio, chers amis. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien avec Stéphane, avec Laurence, avec Loïc, qui est le gentil régisseur d'Osmose Radio.
Qui adore la chanson.
Qui adore Kiss, et plus particulièrement Paul Stanley, et qui nous diffusait à l'instant ce morceau. Et donc, vous êtes bien dans Erosmose pour encore quelques minutes d'érotisme et de sexualité sur Osmose Radio, une émission. Alors, si vous nous prenez en cours d'émission, évidemment, vous retrouverez le podcast la semaine prochaine sur le site osmose-radio.fr. Vous pouvez nous prendre.
Prenez-nous en cours.
Comme disait une internaute qui m'a fait rire récemment, elle disait quand mon copain me dit je passe te prendre ce soir, je sais jamais s'il faut que je m'habille ou pas. Voilà. Et donc là, j'aurais fait un lapsus, pardonnez-moi. Donc si vous nous prenez en cours d'émission, eh bien, vous pourrez retrouver le podcast incessamment sous peu sur le site osmoseradio.fr. Sinon, eh bien, si vous écoutez en direct ou en podcast, sachez qu'on est le vendredi 15 février. Hier, c'était la Saint-Valentin.
Et aujourd'hui, entendu, c'est la Saint-Claude.
Tu as une petite anecdote à ce sujet d'ailleurs.
Tout à fait.
Et justement, la Saint-Valentin, c'est l'occasion aussi plus particulièrement de parler d'amour. Qui parle mieux d'amour que
parce
ceux
que
qui
s'écrivent. Parce que si c'est bon pour le jour de la Saint-Valentin, c'est bon pour le lendemain et les autres jours aussi. Hein, ne vous privez pas.
Et donc, comment mieux se parler d'amour que dans des relations épistolaires, des jolies lettres d'amour en l'occurrence. Et tu nous en as ramené de belles aujourd'hui, Laurence.
Alors, je vous en ai ramené de belles, mais fidèles à moi-même. Je les ai choisies un petit peu érotiques, chaudes, mais tendres aussi. Hein. Et la première dont je vais vous parler, elle est signée Griselidis Real. J'y tenais beaucoup, parce que peut-être que vous ne connaissez pas Griselidis Real.
Griselidis Real, donc c'était une féministe suisse.
Tout à fait. Ouais. Péripatéticienne suisse et militante, hein, qui s'est battue, je lis, hein, à partir de la fin des années 70, pour rassembler les prostituées d'Europe afin de défendre le libre exercice de leur métier et, à travers elle, celui des clients, de venir trouver leur équilibre sexuel auprès des professionnels. C'était une militante, on l'a trouvée à l'église Saint-Nizier à Lyon. Je ne sais pas, tu te souviens, t'étais jeune. Hein, c'était le visage de la révolution des prostituées en 1975, le mouvement qu'avaient commencé les dizaines de prostituées qui occupaient cette fameuse église Saint-Nizier à Lyon. Il y avait Ulla aussi un peu plus tard, pour protester contre le harcèlement policier et social. Et cette femme, elle est vraiment, c'est une militante, et elle défendait l'idée que sans être amoureuse, une femme puisse avoir un orgasme d'une façon absolument mécanique dans une pratique qui est un contrat. Elle fait l'amour parce qu'elle prend de l'argent pour ça, sans aucun désir pour l'homme en question. Donc, c'est exactement comme les hommes. Elle a été mise en scène par Coralie Zaonero, une comédienne de la Comédie française qui avait écrit et mis en scène et interprété le spectacle sur cette femme. C'était un seul en scène en 2007.
J'avais vu, c'était vraiment bien.
Voilà, t'avais aimé ?
Beaucoup.
Et bien voilà, tu vois. Mais je pense que...
Coralie Zaonero m'avait snobé, mais le spectacle était vraiment bien.
Ah ben bon, écoute, moi je ne l'ai pas vu, mais c'est bien que t'en parles parce que... Parce que voilà, je pense que c'est un personnage hyper attachant, cette femme. Alors moi, j'ai cherché un peu des infos sur elle. C'est une femme, j'ai trouvé très belle. Elle était très très belle, Griselidis. Elle était aussi très intelligente et elle a écrit des très belles choses. J'essaie de retrouver parce qu'elle c'est consigné dans un... Enfin, là, j'ai un titre d'ouvrage, mais je crois qu'il y en a eu un autre. Il y en a un qui s'appelle « Mémoire de l'inachevé ». Et c'est là-dedans, dans ce livre, moi j'ai tiré la lettre que voici, qui s'adresse à son amour et mon amour, Hassine, entre parenthèses, Ahmed. Mon petit fauve noir, je te remercie pour tes deux lettres, celles que tu m'as écrites le jour merveilleux de notre lundi de visite, je l'ai reçue hier, et une que j'ai reçue aujourd'hui, que tu m'as écrite mardi, toutes les deux par express, tu es merveilleux. Je t'ai écrit hier soir une lettre un peu folle, un cri d'amour brûlant jaillit d'un fond de bouteille de rouge. Je ne sais plus ce que je t'ai dit. J'étais emportée par l'amour, le vin, la folie de ma passion pour toi et la douleur de notre éloignement, et j'ai mis une petite rose séchée. Et j'ai trempé la lettre dans le vin pour l'abreuver au nom de notre amour. Tu comprendras, Hassine, même le mot « merde », même n'importe quel mot jeté entre nous ne signifie rien d'autre que « passion ». souffrance et espoir. Ta magnifique lettre, où tu as marqué sur l'enveloppe les lettres de ton nom mélangées au mien. Je la serre contre mon visage, je l'embrasse, je la dévore, elle est délicieuse. Dans cette lettre, je sens encore tes lèvres brûlantes enfoncées dans les miennes, ta langue adorée et souple. Je veux habiter dans ta bouche, comme dans un palais des mille et une nuits, et m'y perdre, m'y noyer. Hassine, tue-moi d'amour, et je ne serai jamais morte. Je flotterai éternellement dans un océan d'amour pourpre, comme une algue ivre, comme une méduse de satin. Hassine, je veux m'égarer dans les méandres voluptueux de ta bouche, de ton corps. Garde-moi prisonnière en toi. Enchaîne-moi par tes lèvres, tes dents. Cloue-moi par la violence de tes ongles. Que tes griffes soient mes barreaux. Enferme-moi dans tes caresses. Je ne veux plus jamais sortir de toi. Sois ma prison et mon dragon. Hassine, 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 Hassine. Sois ma drogue, mon poison, mon poignard. Tue-moi, Hassine, tue-moi. Tue-moi. Jette-moi tout au fond du puits de ton regard. Fais-moi chavirer de ton souffle furieux. Qu'il me déchire et me ravage comme un feu dans la jungle. Abats-moi comme un arbre. Casse-moi, fends-moi. Hassine, saccage-moi. Qu'il ne te reste plus rien de moi qu'un tourbillon de cendres hurlant de joie. Je suis folle, Hassine, folle d'amour. Et je ne bouge pas d'un geste. Je t'attends. Viens, Hassine. Tout doucement, à chaque jour un peu plus près. Les minutes chauffent et tournent dans le temps. C'est bientôt l'heure du feu, de notre heure de braise, de notre nuit sanglante. Moi, j'ai trouvé ça très beau.
Des fois, ça me fait penser un petit peu à Duras. Tu me tues, tu me fais du bien, tout ça.
Eh ben, je préfère.
Dans Hiroshima, mon amour.
Je préfère Griselidis. J'ai un petit problème avec Marguerite.
Ah.
Mais chaque année, je me dis, je vais me réconcilier avec Marguerite Duras et je vais essayer. Et chaque année, j'abandonne Marguerite Duras en route. Voilà.
Moi, je me fie au film d'Alain René parce qu'en fait, j'ai pas lu beaucoup de trucs de Marguerite Duras. Mais c'est vrai que ce soliloque dans le film Hiroshima, mon amour, tu me tues, tu me fais du bien, m'avait beaucoup impressionné. Et Griselda Israël, une grande poète en plus d'être une grande femme.
Ah, mais magnifique. C'est, j'ai trouvé le texte magnifique. Il est très évocateur, mais beau, c'est beau, je trouvais ça très beau.
Alors, il y a un moment, elle est chez elle, un appartement qu'elle occupait à Paris, à l'époque où elle était à Paris, et sur YouTube, on trouve une vidéo où elle voit un danseur maghrébin qui est chez elle, non ? Et je me demande si c'est pas cet Hassine.
Alors,
justement.
Peut-être que c'est Hassine, hein, parce qu'il s'appelle Hassine Ahmed, et c'est peut-être lui. Moi, je suis pas allée chercher plus loin, parce que finalement, j'avais pas envie de savoir qui était Hassine, c'était suffisamment beau comme ça, j'ai pas eu envie de.
Mais en même temps, voilà. Et elle a une manière de le bouffer des yeux dans cette vidéo, c'est touchant quoi.
Alors moi j'étais fascinée par le regard de cette femme, je l'ai trouvée vraiment splendide, hein. T'es très belle, elle est décédée en 2005. Hein.
Assez récent, ouais. Et effectivement, il y avait eu notamment moi j'avais découvert grâce à l'émission sur France Inter, Là-bas si j'y suis, où quelques mois avant sa mort, il l'avait interviewée. Et donc ça m'a permis de découvrir cette femme exceptionnelle, une féministe, une prostituée et puis une artiste, une poète aussi. Elle peignait d'ailleurs aussi pour les curieux. Et si ça vous intéresse, on vous mettra des liens sur le Facebook d'Erosmos, bien entendu. Et elle a commencé de manière un petit peu difficile, à une époque c'était pas facile, à travailler comme prostituée quand elle n'avait pas le choix. Elle avait travaillé notamment à Munich, en Allemagne. Et donc, elle raconte ces expériences-là dans ses œuvres littéraires. Et bien, justement, quelqu'un qui nous venait d'Allemagne aussi, mais qui, lui, s'était expatrié aux États-Unis, c'était Bukowski.
Ah ben oui. Alors, Bukowski. Est-ce qu'on ne présente plus Bukowski ? D'ailleurs, je n'ai pas tellement envie de vous le présenter. excusez-moi, on est en direct. Et puis, c'est la saison des rhumes, des choses comme ça. Donc Bukowski, tout le monde connaît, ou si tout le monde ne connaît pas, mais il faut faire connaissance de Bukowski. Et ce personnage, on l'aime, on le déteste, enfin, il laisse personne indifférent. Moi, j'ai une grande passion pour Bukowski, mais je comprends tout à fait qu'il puisse ne pas plaire à tout le monde. Mais bon, peu importe, toutes les fois où j'ai l'occasion de le défendre, je le défends. Et donc, là, c'est une lettre, je ne sais pas à qui l'a adressée, et puis finalement, peu importe, c'est Bukowski, un autre Bukowski, tout en restant Bukowski, érotique, sexe, et voilà ce qu'il écrit. « Ton petit jeu de main baladeuse m'a plu. Ça m'a rendu chaud comme la braise. » Ça a été écrit en 1972, hein, je vous le précise. « Tout ce que tu fais me rend chaud, comme la braise. Quand tu jettes de l'argile au plafond, toi, la chienne, toi, la mégère rouge et brûlante, toi, la ravissante, ravissante femme, tu as fait naître de nouveaux poèmes, de nouveaux espoirs, une joie nouvelle et de nouveaux tours chez un vieux chien. Je t'aime. J'aime les poils de ta chatte que j'ai sentis avec mes doigts. L'intérieur de ta chatte, mouillé, chaud, que j'ai senti avec mes doigts. Toi, debout contre le réfrigérateur. Ton réfrigérateur est si merveilleux. Tes cheveux lâchés, toi, là, sauvage. L'oiseau sauvage, la chose sauvage qu'il y a chez toi, brûlante, obscène, miraculeuse. Te tordre le cou, essayer d'attraper ta langue avec ma bouche, avec ma langue. Nous étions à Burbank et j'étais amoureux d'un amour d'outre-mer. Ma bon Dieu de maudite déesse, mon allumeuse, ma chienne, mon conte paradis entouré de poils, battant, respirant, je t'aime. Et j'aime ton réfrigérateur. Et quand on s'attrapait et qu'on battait corps à corps, cette tête sculptée qui nous regardait avec son petit sourire lyrique, cynique, amoureux, ardent, je te veux. Je te veux, toi, 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 toi.
Je trouve que c'est l'anecdote du réfrigérateur, ça me fait penser à un texte de Desproges où il dit que les éviers, ça le fait bander par rapport à une anecdote quand il était ado.
Mais moi, j'aime bien cet extrait de Bukowski parce que je trouve qu'on y retrouve assez l'essence de Bukowski. Il y a, c'est bon, les gens qui nous prennent en cours de route. Sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait la dame ? Alors j'assume tous mes propos, moi je suis là, j'aime bien la littérature, j'aime bien aussi l'érotisme, j'aime bien l'érotisme en littérature, je ne fais pas dans la pornographie vilaine et bas de gamme, je choisis mes auteurs avec soin, et moi j'aime bien ce qu'il écrit.
Tu n'es que l'humble vecteur, la magnifique lectrice du texte d'un autre, et que d'aucuns, moi y compris, découvrons avec toi, avec la lecture que tu en as faite à l'instant. Il nous reste, la fin de la mission s'approche, et là, s'il nous reste seulement quelques minutes, voudrais-tu nous lire un des autres textes que tu as venu ? Parce que tu es venu les bras chargés de feuillets divers et variés.
Juste vous dire que quand même, le lendemain de la Saint-Valentin, c'est la Saint-Claude. Et Saint-Claude, c'est une commune du Jura où il fait froid, où il y a du bois. Et la spécialité de cette commune, c'est de tailler les pipes. Eh bien oui, c'est comme ça, on taille les pipes à Saint-Claude. Ils sont tous morts de rire, mais c'est comme ça, une taille de pipe à Saint-Claude.
Alors Saint-Claude, c'est un saint du Panthéon catholique qui est pris à pic, c'est ça ?
Et voilà, c'est ça, mais on y taille les pipes, on y taillait aussi les diamants, mais c'était connu pour y tailler les pipes. Et donc, je suis allée chercher un petit texte en rapport à ça, et donc je suis tombée sur un texte d'Henri Tachan, qui était un chanteur militant. Stéphane, il n'aime pas la musique, c'est vrai que la musique d'Henri Tachan, c'est un petit peu... Mais n'empêche qu'Henri Tachan, il avait écrit un texte, je ne vais pas vous le lire tout entier, hein. Il a écrit un texte plutôt rigolo, et alors, ça dit ceci, je ne vais pas vous le dire tout, hein. Donc, ami de la culture, hein, bon. Alors, adolescent paumé, qui saigne tes vieillards pour de la menue monnaie, quelques pauvres liards, donne-leur donc, au lieu d'un coup de yatagan, le petit coup du bon Dieu, un dernier bon moment. Fais une pipe à pépé, avant qu'il ne la casse. Une petite langue à mémé. C'est difficile. Son sérieux avant qu'elle ne trépasse. Et ne pousse pas des cris d'horreur, d'indignation. Ils sont comme toi, les vieux. Ils ont le cul sous le chignon. Infirmière dévouée au fond de ton hôpital, au lieu du comprimé, du calmant, du bocal, au lieu du thermomètre, cette épée de Damoclès, donne donc à l'ancêtre une ultime caresse. Fais une pipe à pépé avant qu'il ne la casse. Une petite langue à mémé. Avant qu'elle ne trépasse. Ils ne poussent pas des cris d'horreur, d'indignation. Ils sont comme toi, les vieux. Ils ont le cul sous le chignon. Et ça continue. Je vais m'arrêter là, mais bon, je ne pouvais quand même pas la louper, celle-ci. C'est difficile, hein, ils sont tous morts de rire ici. Je continue, j'assume. Est-ce que tu veux que je finisse quand même, parce que je suis quand même une grande représentante de la culture, je vous ai trouvé des choses un petit peu étonnantes en matière de culture. Je le dis en rigolant, hein, quand même. Eh bien, moi, je suis allée chercher quelque chose sur Henri-Désiré Landru.
Ah, le fameux assassin.
Oui, le fameux assassin dont on a dit hier que c'est vrai que Henri-Désiré Landru, il les préférait chaudes. Et ben,
Pour voilà. L'anecdote, c'était cet assassin qui mettait les femmes au four.
Il les aimait chaudes. Il a été un... Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il... Voilà, vous savez quand même qu'il fut un grand séducteur, un petit escroc et un auteur pas inintéressant.
Un auteur, oui. En plus cette de dernière... ça.
Par contre, cette dernière qualité reste un peu méconnue parce qu'on lui a un petit peu raccourci la tête. Il a fini guillotiné, hein, le brave homme. Et il suffit pourtant de se pencher, je lis, hein, sur les carnets de tueurs en série conservés aux archives de la préfecture de police de Paris et bizarrement peu consultés pour s'apercevoir que cet homme avait un étonnant sens de l'humour, c'est vrai, servi par une belle plume. Dans le petit carnet noir où Landru a consigné les noms des 283 femmes qu'il a séduites durant sa carrière, il a été guillotiné en 1922 pour le meurtre de 11 d'entre elles. On trouve quelques lignes charmantes sur les attraits de telle ou telle, donc je vous ai réservé les attraits de Léontine, elle, il écrit. Poil pubien très noir, dru et en abondance. Petite toison au niveau de l'anus, aisselle comme des bois. Une telle quantité de poils suffirait presque à faire démarrer la cuisinière. Mais pas tout de suite. Ces broussailles permettent dans l'immédiat d'assouvir d'autres besoins que ceux de la combustion. Léontine me sourit bêtement quand je l'appelle « mon petit foin ». Si elle savait, la pauvre. Enfin, pas si pauvre que ça. Il y a une somme rondelette sur son compte. Et la seconde, c'est Joséphine B. Ça, c'est très joli.
Quel salopard.
Oui, ben oui. Cette paire de fesses mériterait d'entrer au Panthéon. À ce grand cul, la patrie reconnaissante. À ce beau postérieur, la France à genoux. Jamais viande et graisse n'ont sculpté un tel aventin. Plus que le marbre dur, me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin. Plus mon petit Liré que le Mont Palatin. Et plus que la chaleur du poil, la douceur.
Angevine.
Joséphine.
Douceur Joséphine, pardon. Petite parodie de Ronsard.
Ce qui fait quand même que je trouve que Landru avait effectivement beaucoup d'humour. Et je trouve dommage qu'il n'ait pas écrit plus, parce que quel joli livre il aurait pu laisser. Mais l'époque n'était pas prête pour ce genre de hard fiction. Hein. Il a fallu attendre, d'ailleurs, si on en parle, Issei Sagawa, pour qu'on fasse enfin entendre la petite musique jusque dans les librairies. Celui qu'on avait surnommé le japonais cannibale s'est rendu célèbre d'abord en tuant et en mangeant en partie une étudiante néerlandaise à Paris en juin 1980, puis en rédigeant une douzaine de livres tournant autour de ses repas macabres. L'un d'eux a d'ailleurs pour titre « Ceux que j'ai envie de tuer ». Donc, je dis que si la guillotine n'avait pas raccourci Henri-Désiré Landru, eh ben, on aurait pu proposer au fourneau avec Landru dans le rayon cuisine et au rayon littéraire celles qui ont eu chaud, consacrées aux femmes qu'il n'a pas eu le temps d'enfourner dans sa cuisinière. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Au moins, c'est...
Enfin, en même temps, c'est vrai qu'on se permet d'en rire alors que ces pauvres femmes sont passées à la casserole en quelque sorte.
Pas la casserole, mais bon, violemment. Mais oui.
Mais au moins, lui, il a été condamné et guillotiné. Alors que Issei Sagawa, comme papa et maman sont riches, hein, et ben, du coup, il a fait des horreurs et il n'a jamais été condamné, ce salopard. Enfin bref. Voilà, chers amis, c'était Erosmose avec quelques petites références, notamment à la Saint-Valentin, avec les lettres d'amour que tu viens de nous citer. Parfois, humour un peu macabre, humour un petit peu transpirant, le stupre, évoquant le stupre notamment, mais ça fait partie aussi du cahier des charges d'Erosmose. Et justement, mais puisqu'on arrive à la fin de l'émission, alors toi, ce week-end, tu vas à un festival du livre.
Alors oui, il y a l'autre festival qui se passe, que vous pouvez rencontrer les auteurs. Il y aura des lectures, il y aura des rencontres avec des auteurs. Les lectures se font au Novotel et au Palais des Papes. Et également, les auteurs sont à rencontrer là-bas. Il y a un programme assez important et assez satisfaisant, ça c'est sûr, mais alléchant en tous les cas. Il y avait hier Annie Dupéret. Vous pouvez rencontrer Daniel Mesguich, Catherine Arditi qui va faire des lectures. Il y a toute une galerie de personnages sympathiques. Donc, les entrées sont libres. Vous vous déplacez au Novotel ou au Palais des Papes.
D'accord.
Donc ça, c'est une première chose. Tu veux qu'on finisse juste sur la Saint-Valentin et les reliques quand même, parce que ça...
Oui, voilà, c'est ce que tu m'as appris. Alors, des Saint-Valentin, il y en a trois dans le
Panthéon. Il y a trois Saint-Valentin, mais celui qui nous intéresse, parce qu'on n'est pas loin d'ici, il y a des reliques qui sont conservées Alors attends, il faut que je retrouve. Depuis à Roquemort, depuis le 25 octobre 1868, l'église de Roquemort, qui est une très belle église que je vous conseille d'aller voir dans le Gard, abrite les reliques de Saint-Valentin de Terni. En 1868, elles furent achetées à Rome par Maximilien Richard, riche propriétaire viticole du château de Cléry de Roquemort, qui les utilisa dans le but de protéger les vignobles du phylloxéra, apparu là 2 ans auparavant. Elles sont depuis sorties tous les 2 ans lors d'une grande fête commémorant la procession, le dimanche le plus proche du 14 février. Et je crois que ça aura lieu ce week-end à Roquemort. Je ne suis pas certaine de moi, mais s'il n'y a pas de fête de la Saint-Valentin à Roquemort, mais allez voir l'église qui a des orgues sublimes qui sont... dans un état de conservation formidable, et il faut y aller.
Saint-Valentin, patron des amoureux et en même temps protecteur des vignes. Comme quoi, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Allez donc savoir. Et enfin, bien entendu, je vous parlais d'Asie tout à l'heure. Sachez que le Japon va bientôt être à l'honneur, bientôt dans la culture contemporaine, en tout cas japonaise, sera bientôt à l'honneur. Il y a un festival de la culture japonaise qui se tiendra à Nîmes début mars. Et plus proche de nous, à Avignon, vous aurez ce week-end le festival du manga, notamment, et de l'anime. Et en ce moment, à Utopia, ils font des projections aussi des films de Miyazaki, des films des années 80 qui n'avaient jamais été distribués en France. Donc du coup, faites-vous plaisir si vous êtes intéressé par la culture japonaise dans son plus large éventail. Et d'ailleurs, tout à l'heure, notre collègue Jérémy va interviewer les organisateurs de ce festival du manga. Voilà. Et donc, comme je vous parlais de l'Asie tout à l'heure, comme on a parlé de la Saint-Valentin, comme tu nous disais tout à l'heure qu'il y a cette fête des amoureux, le Kichi en Chine, justement, eh bien, on vous souhaite un bon week-end en amoureux ou à la recherche d'un amoureux, mais on vous souhaite et on en est quasiment sûr que ça va vous arriver bientôt. Et de toute façon, amusez-vous. Et puisqu'on parlait de l'Asie à l'instant, mais on va se mettre un petit peu, faire une transition, se mettre un petit peu dans l'ambiance avec un extrait de la bande originale d'un film japonais, justement, mais un film à l'aune d'Erosmose, ce sera un film un petit peu sensuel. Il s'agit de L'Empire des Sens, avec un extrait de la bande originale de ce film singulier de Nagisa Oshima qui était sorti dans les années 70 et qui raconte l'histoire d'une amour absolue et qui à la fin devient mortelle, un petit peu comme avec Henri Désiré Landru. Il y a une jolie brune dans le film aussi, mais tu aurais du mal à être aussi frappade dingue qu'elle, ma chère collègue. Allez, on se quitte avec cet extrait de la bande originale du film L'Empire des Sens, et nous on vous donne rendez-vous au mois de mars, cher petit fripon.
À bientôt, petite friponne.